Le MAG, le magazine d'information de Montpellier Méditerranée Métropole.
Bienvenue dans la version sonore du MAG, le magazine d'information de la métropole, numéro 16, mai 2016.
À la une, un gros titre sur fond bleu, 0% d'augmentation des taux d'imposition de la métropole, engagement tenu. Au sommaire de ce numéro 16 du MAG, l'édito de Philippe Sorel, président de Montpellier Méditerranée Métropole, maire de la ville de Montpellier. Dans l'actu, l'événement, la métropole fait sa Commedia del Libro. Décision, un budget maîtrisé et dynamique.
Commune, carte aux parties dans les rues de Saint-Bresse. Les associations font leur sport à Restinclière. Le printemps des entreprises à Sussargues. 250 artistes à la fête du rat.
En action, le singulier musée de l'art brut. Le conservatoire prépare l'avenir des grainothèques dans les médiathèques.
En chantier, agriculture urbaine à Eureka.
Notre dossier, Montpellier, capitale glisse.
La rencontre, Nanda Gonzague, regard d'auteur.
Pichoun, partir avec Icar à la conquête du ciel.
En image, Pierre Alzingre.
Languedoc, Max Rouquette et le renouveau du tambourin.
En vadrouille, la métropole engagée pour la biodiversité.
Rendez-vous.
Forum. L'édito de Philippe Sorel, président de Montpellier Méditerranée Métropole, maire de la ville de Montpellier.
0% d'augmentation des taux. Le 14 avril, les élus métropolitains ont voté à l'unanimité des voix exprimées le budget 2016 et les taux d'imposition. Comme je m'y étais engagé en début de mandat, cette année encore, nous n'avons pas augmenté ces derniers. Cette stabilité fiscale à laquelle je tiens particulièrement, nous nous y appliquons depuis 2 ans pour préserver votre pouvoir d'achat. L'exercice est difficile. Je tiens à saluer le travail de Max Levita, vice-président en charge des finances, qui a réussi à maintenir des taux identiques à 2015, alors que les dotations de l'État, une part importante des recettes des collectivités, ne cessent de diminuer. Des investissements à la hausse, au total ce sont 905 millions d'euros qui ont été votés à la métropole pour cette année 2016, avec un investissement de 209 millions d'euros en hausse de 17%, dont une partie est liée au transfert de la compétence voirie des communes, une augmentation rare dans les collectivités ces dernières années, qu'il me paraît important de souligner. La métropole continue à investir pour les habitants de ses 31 communes. Nos priorités sont déclinées autour de 7 piliers de développement du territoire, la santé, le numérique, la mobilité et les déplacements, le développement économique, touristique et industriel, l'agroécologie alimentation, la culture, le patrimoine et l'université, ainsi que le commerce et l'artisanat, 7 domaines d'excellence et d'avenir qui continueront à orienter notre action tout au long du mandat.
Vous avez la parole. Montpellier Méditerranée Métropole met à votre disposition une boîte à idées en ligne sur montpellier3m.fr. Chaque mois, nous publions 2 de vos propositions. Tout d'abord, proposition de Cathy. Serait-il possible d'avoir une seule carte valable pour toutes les piscines de la métropole ?
À ce jour, au-delà du tarif qui n'est pas le même, il n'y a pas de compatibilité technique entre la carte d'un abonné à la piscine olympique d'Antigone et d'un abonné aux 12 autres piscines du réseau de Montpellier Méditerranée Métropole. Nous veillerons à cette possibilité lors de la relance du marché public de la billetterie des piscines.
Question de Géraldine. Pourquoi ne pas créer un forfait spécial pour les enfants qui prennent le tram seulement une fois par semaine pour des cours au conservatoire, aux piscines ou à la patinoire ?
Le titre d'e-voyage est parfaitement adapté à vos besoins. Il est justement prévu pour les personnes se déplaçant 1 à 2 fois par mois, contrairement aux abonnements. Cela revient à 1 euro le voyage, un des tarifs les moins chers de France. Dans l'actu, le Trophée Taurin Montpellier 3e de retour dans les arènes. Pour l'édition 2016 du Trophée Taurin, co-organisé par Montpellier Méditerranée Métropole aux côtés de la Fédération Française de la Course Camarguaise, 9 courses sont au programme jusqu'au mois de novembre. Alors que le premier rendez-vous a lieu dans les arènes de Saint-Geniès-des-Mourgues le 1er mai, les prochaines étapes se dérouleront à Castries le 14 mai, au Cresse le 21 mai et à Bayargues le 28 mai. L'an dernier, le raster montpelliérain Zico Katif, en photo ici, a remporté le trophée. Plus d'infos sur montpellier3m.fr/trophée-taurin.
Des relations renforcées avec le Brésil. En mars dernier, une délégation de la ville de Campinas, au Brésil, est venue à Montpellier. À cette occasion, elle a signé avec Montpellier Méditerranée Métropole un mémorandum de coopération. Celui-ci renforce les relations initiées depuis 2003 entre les deux territoires, qui souhaitent désormais créer des programmes de coopération et d'échange dans les secteurs du numérique, de la santé, des biotechnologies et de la recherche agronomique. Le maire de la ville de Campinas, Jonas Donizet, a notamment annoncé son intention de créer un agropole en s'inspirant du modèle d'agropolis international à Montpellier. Cet accord offre également de nouvelles perspectives d'implantation et de nouveaux marchés pour les entreprises métropolitaines. On aperçoit en photo ici Philippe Sorel, président de Montpellier Méditerranée Métropole, et Jonas Donizet, maire de la ville de Campinas, lors de la signature du mémorandum de coopération.
Big Up for Startup, la French Tech organise les 19 et 20 mai prochains sa deuxième édition de Big Up for Startup avec le soutien de Montpellier Méditerranée Métropole. Cet événement met en relation 14 grandes entreprises privées et publiques à la recherche de solutions innovantes avec des startups qui cherchent à développer leurs activités. L'an passé, 150 jeunes pousses y ont participé et 15 contrats ont été signés. Toutes les infos sur le site bigupforstartup.com.
Basile, à l'honneur en Camargue. Le 17 mai, le musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole signera une convention de partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux, la commune d'Aigues-Mortes et le syndicat mixte de la Camargue gardoise dans le cadre de l'exposition Frédéric Basile, la genèse de l'impressionnisme à découvrir du 25 juin au 16 octobre dans le musée métropolitain. Cet accord permettra une mise en réseau des équipements culturels des deux territoires, mettant à l'honneur des œuvres du peintre montpelliérain. Des infos sur le site museefabre.montpellier3m.fr.
900, c'est le nombre de tours opérateurs et d'agents de voyage présents lors de la 11e édition du salon Rendez-vous en France, organisé les 5 et 6 avril dernier au Parc des Expositions à Pérols, qui a attiré également 900 exposants. À cette occasion, l'Office de Tourisme et des Congrès de la Métropole a notamment reçu près de 120 tours opérateurs ainsi qu'une quarantaine de journalistes nationaux et internationaux pour leur faire découvrir les atouts du territoire. Un événement qui a permis à Montpellier de s'afficher comme une destination touristique phare en France. Toutes les infos sur montpellier-tourisme.fr.
Les rencontres pour l'emploi à Pignan. Après une dernière édition au stade de la Mosson à Montpellier en novembre dernier, les rencontres pour l'emploi prennent la direction de Pignan le 19 mai. Lors de cet événement, organisé par Montpellier Méditerranée Métropole, en partenariat avec plusieurs communes de son territoire, des personnes en recherche d'emploi rencontreront une soixantaine d'entreprises, locales ou nationales, cherchant à recruter de nouveaux collaborateurs dans des domaines aussi variés. Les participants pourront également se renseigner sur la création et la reprise d'entreprises. Rendez-vous donc à la salle du Bicentenaire, à Pignan, de 9h à 17h. Pour y accéder, le bus, les lignes 34 et 38, arrêt Le Temple, ou encore avenue de l'Europe, parking gratuit.
Trois nageuses montpelliéraines à Rio, Montpellier 3e Capital Sport. Les nageuses montpelliéraines l'ont prouvé une nouvelle fois du 29 mars au 3 avril lors des championnats de France de natation à la piscine olympique d'Antigone. Coralie Balmy du 3MUC Natation, Margot Fabre d'Aqualove Sauvetage et Fanny Deberg de Montpellier Métropole à SPTT Natation ont toutes les trois décroché leur billet pour les Jeux Olympiques de Rio. Elles feront partie des 28 nageuses et nageurs qui composeront l'équipe de France pour les épreuves en individuel et en relais cet été. Une sacrée performance. En photo ici, Coralie Balmy du 3MUC Natation qui s'est illustrée en 400 mètres et 800 mètres nage libre en montant sur la plus haute marche du podium lors des championnats de France. Elle est une des rares à avoir réalisé les minima pour se qualifier directement au JO. Médaillée d'or en 50 mètres brasse au championnat de France, Fanny Deberg de Montpellier Métropole à SPTT Natation participera au relais 4 x 100 mètres 4 nages à Rio. Et puis Margot Fabre d'Aqualove Sauvetage, médaillée de bronze en 200 mètres nage libre, s'alignera quant à elle sur le relais 4 x 200 mètres nage libre au Brésil.
Prévention des noyades, rendez-vous dans les piscines. Les enfants comme les parents sont bienvenus dans les ateliers animés par les maîtres nageurs des 13 piscines de la métropole pour les sensibiliser aux dangers de la baignade, première cause de mortalité en été dans l'Hérault. tout au long du mois de mai et jusqu'au 12 juin. Dans le cadre de l'opération Prévention des noyades, ils pourront participer à des animations ludiques et pédagogiques avec tests anti-panique, initiation au premier secours à la profondeur. Chaque piscine propose également un jeu avec 200 places à gagner pour assister à un spectacle pédagogique le 8 juin à la médiathèque Émile Zola. Ceux qui préfèrent la mer pourront retrouver l'opération sur le littoral du 13 au 15 mai pendant le Festival international du kitesurf, le FestiKite à Villeneuve-lès-Maguelone, avec des animations, des ateliers ouverts à tous et des démonstrations. Cette année, les parents seront aussi invités à des conférences dans les écoles le 10 mai à Saint-Jean-de-Védas, le 24 mai au Cresse, le 31 mai à Montpellier, Croix d'Argent, et le 7 juin à Montpellier, à Malbosque. Rendez-vous sur montpellier3m.fr/prévention-noyade au pluriel.
Soyez vigilants, le moustique tigre revient. Vous ne l'avez peut-être pas encore croisé, mais après une période d'hibernation, il reprend du service. Le moustique tigre, cet animal originaire d'Asie, est vecteur potentiel de maladies comme la dengue, le virus Zika ou le chikungunya à l'homme, a élu domicile dans la métropole depuis plusieurs années. Pour limiter les nuisances provoquées par cet insecte, une seule solution, faire la chasse au point d'eau à domicile. Cet insecte a besoin d'humidité pour survivre et les sources d'eau, dans les jardins ou sur les balcons, leur offrent à la fois le gîte et le couvert. Soyez donc vigilants en limitant les points d'eau à domicile. L'entente interdépartementale de démoustication, l'EID Méditerranée, est l'opérateur public chargé de la lutte contre les moustiques sur l'ensemble du littoral méditerranéen. Sa mission principale est de contrôler la prolifération de ces insectes dans les zones humides, les étangs et les lagunes. Pour une demande d'information, contactez l'EID Méditerranée au 0825 399 110 ou rendez-vous sur moustiquetigre.org.
4,2 millions, c'est le nombre moyen de téléspectateurs qui ont regardé le double épisode de la série Tandem, mêlant comédie familiale et enquête policière, diffusée sur France 3 en mars dernier. Un vrai succès. Cette série, dont la seconde saison est en préparation, a été entièrement tournée à Montpellier et ses alentours. Elle a reçu le soutien logistique de la commission du film LR Cinéma et de la ville de Montpellier. La production a également fait appel à une centaine de comédiens et techniciens de la région.
Une collecte mobile pour vos encombrants. Dès le mois de mai, une remorque de collecte mobile s'installera 2 semaines par mois aux abords de l'Écusson à Montpellier et sur un emplacement différent chaque jour. Les habitants et les commerçants du centre-ville pourront ainsi venir déposer leurs déchets spéciaux et petits encombrants sans avoir à se déplacer jusqu'aux déchetteries situées dans d'autres quartiers. Pour connaître les dates et les lieux d'installation de la collecte mobile, rendez-vous sur montpellier3m.fr.
Les filles du Montpellier Hérault Sporting Club en finale. Après une demi-finale très accrochée contre le Paris Saint-Germain, l'équipe féminine du MHSC dispute la finale de la Coupe de France le 15 mai à Grenoble face à l'Olympique Lyonnais, tenant du titre. Les Payadines ont l'occasion de prendre leur revanche après leur défaite de l'an passé à ce stade de la compétition contre les mêmes adversaires. Elles rejoignent ainsi les basketteuses du BLMA et les handballeurs du Montpellier Handball, également en finale de la Coupe de France le 1er mai pour les premières et le 21 mai pour les seconds. Rendez-vous sur le site internet mhscfoot.com.
Extreme Up Act 2, l'événement créé l'an dernier, de retour avec la même mission, faire découvrir au grand public les valeurs communes partagées par le monde du sport et celui de l'entrepreneuriat. Il prendra place le 3 mai sur le Fizz World Montpellier et le 13 mai sous le grand chapiteau du FestiKite. Au programme de la première journée, un concours de pitch extrême. La seconde après-midi sera notamment consacrée à des interventions de plusieurs personnalités. Yuri Zun, double champion du monde de kitesurf, Stéphane Dinet, cofondateur Weather, ou encore Pierre Alzingre, fondateur de Visionary et conseiller en marketing de l'innovation. Réservation obligatoire sur extremeup.com.
160 000, c'est le nombre de foyers raccordables à la fibre optique Orange d'ici la fin de l'année. Depuis un an, Montpellier fait partie des 9 villes françaises dotées du label 100% fibre Orange, la seule grande ville de la région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. 100 000 foyers montpelliérains sont déjà raccordables. Le 14 avril, Philippe Sorel, président de Montpellier Méditerranée Métropole, et Patricia Goriot, nouvelle directrice d'Orange Sud, se sont rendus dans le central du quartier Juvénal pour faire le point sur ce chantier en cours. Le numérique est un des 7 piliers de développement de la métropole de Montpellier, a rappelé Philippe Sorel. Il est important pour réduire la fracture numérique de renforcer l'accès au très haut débit pour tous et respecter un équilibre sur le territoire. D'autres villes de la métropole telles que Castelnau-le-Lez, Juvignac, Le Crès et Latte sont également en cours de raccordement. Plus d'infos sur réseau.orange.fr/couverture-fibre.
Quatre partenariats économiques avec l'Amérique du Nord. En avril, Chantal Marion, vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, déléguée au développement économique, a signé 4 accords de partenariat économique et technologique entre la métropole et l'Amérique du Nord au Québec. Un accord tripartite initié par le groupe de travail de la French Tech a été conclu avec Bleu Blanc Tech, l'opérateur du French Tech Hub de Montréal, et French South Digital, groupement d'entreprises du numérique. Au Canada, l'accord technologique avec Sherbrooke Innopol, l'agence de développement économique de la région, a été renouvelé pour la 3e fois. Aux États-Unis, un accord a été signé avec l'accélérateur Tech Ranch à Austin. Cette ville est la 3e place forte pour l'innovation technologique aux États-Unis après New York et San Francisco, explique Chantal Marion. La mission organisée en octobre dernier par la métropole a mis en évidence l'intérêt croissant de la capitale de l'État du Texas pour les acteurs internationaux de l'innovation. Enfin, un important accord de partenariat a été conclu avec l'incubateur de l'Université d'Orlando en Floride et le BIC de Montpellier Méditerranée Métropole.
9 nouvelles étoiles pour Montpellier. Pour identifier au premier coup d'œil un site à ne pas manquer, le guide vert Michelin lui attribue des étoiles. L'édition 2016 du Languedoc gratifie Montpellier de 9 nouvelles étoiles. Le musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole reçoit ainsi cette année une 3e étoile, synonyme de site qui vaut le voyage. Seulement 20 musées en France ont décroché cette note maximale, fait rare. La place de la Comédie obtient directement 2 étoiles et mérite le détour, tout comme le château de Flaugergue, une des plus belles folies de Montpellier. D'autres sites patrimoniaux sont récompensés d'une étoile, tels que l'Arc de Triomphe, l'Hôtel Saint-Côme, la Place Saint-Roch, la Tour de la Babote et plus contemporain, le Nouvel Hôtel de Ville, signé Jean Nouvel et François Fontès. Pour en savoir plus, voyage.michelin.fr.
Une nuit au musée le 21 mai, à l'occasion de la Nuit européenne des musées. Les établissements culturels de la métropole ouvrent leurs portes au public le temps d'une soirée. Les visiteurs pourront évoluer gratuitement de 19h à 23h au sein des collections archéologiques du musée Henri Prade à Latte. Plusieurs animations sont prévues. Une création de danse contemporaine interprétée par Eve Jouret et Karina Pantaléo, chorégraphe en photo ici. Claude Reynaud, archéologue et directeur de recherche au CNRS, partagera quant à lui des contes inédits. À Montpellier, l'entrée du musée Fabre sera gratuite de 19h à 23h. L'établissement mettra notamment en lumière les créations d'écoliers, de collégiens et de lycéens dans le cadre d'un projet d'éducation artistique et culturelle autour de la vue de village de Frédéric Basile. Vous pouvez retrouver le programme de la Nuit européenne des musées sur museefabre.montpellier3e.fr et sur museearchéo.montpellier3e.
La métropole et la régie au salon Hydrogaïa. Près de 4000 professionnels du secteur de l'eau sont attendus les 25 et 26 mai au salon Hydrogaïa, organisé par Montpellier Events au parc des expositions à Pérol. Montpellier Méditerranée Métropole et sa régie des eaux y tiendront un stand commun afin de présenter leurs politiques et leurs services. La vocation internationale d'Hydrogaïa s'affirme cette année avec un pavillon dédié aux nombreuses délégations étrangères présentes, venues notamment du bassin méditerranéen.
Découverte du cinéma, Gros poids et petit poids d'Uzi et Lotta Geffenbald, de Kirikou et les hommes et les femmes de Michel Oslo, sur le chemin de l'école de Pascal Plisson, ce sont quelques-uns des 8 films sélectionnés par Cinémed, projetés au Corum à des milliers d'enfants dans le cadre de la 23e édition de son festival Cinéma Jeune Public. Du 31 mars au 15 avril, 7000 places sur 22 séances ont ainsi été offertes aux enfants des écoles maternelles et primaires de la ville de Montpellier et de Montpellier Méditerranée Métropole. Plus de renseignements sur cinemed.tm.fr.
tramway, dernière ligne droite. Mercredi 11 mai, Philippe Sorel, président de Montpellier Méditerranée Métropole et maire de Montpellier, inaugurera le réaménagement de la place Albert Ier dans le cadre du bouclage de la ligne 4 de tramway. Montpellier est la première ville de France à avoir choisi d'irriguer son centre historique par une ligne circulaire. Dans 2 mois, il sera possible de faire le tour complet du centre-ville élargi en 35 minutes. Ce chantier, qui met en valeur le patrimoine historique du cœur de ville tout au long du tracé, se termine. Depuis mars, les essais de sécurité de la ligne ont débuté, tout comme la formation des conducteurs, avant la mise en circulation officielle le 2 juillet. Plus d'infos sur tam-voyage-au-pluriel.com.
Porte ouverte à la maison de la justice, assurer une présence judiciaire de proximité et faciliter l'accès aux droits des citoyens sont les principales missions de la maison de la justice et du droit, située dans le quartier Celle-Neuve à Montpellier. Ouverte à tous, la MJD fait bénéficier gratuitement, particulièrement aux habitants les plus fragilisés, d'informations et de consultations juridiques anonymes dispensées par des professionnels du droit. Des avocats, des notaires, des huissiers de justice, des médiateurs de la famille, des conciliateurs ou encore des juristes assurent de nombreuses permanences sur rendez-vous tout au long de la semaine. Mardi 31 mai, cette institution judiciaire gérée par le tribunal de grande instance de Montpellier et la ville organise une journée porte ouverte. La MJD recevra le public et des scolaires de la métropole pour faire mieux connaissance avec ses activités et ses acteurs. L'ouverture d'une deuxième maison de la justice sur le territoire métropolitain est en projet afin de faciliter son accès à tous les habitants. La maison de la justice et du droit de Montpellier se trouve 546 rue André Le Nôtre à Montpellier, le tram ligne 3, arrêt Celle-Neuve. Les renseignements par téléphone 04 67 72 76 80.
Antigone se chauffe au bois. La chaufferie qui alimente en chaleur le quartier Antigone à Montpellier fonctionne désormais plus durablement. 3,9 millions d'euros ont été investis, dont une participation de 1,1 million d'euros de l'ADEME, pour la conversion de cet équipement fonctionnant à l'énergie fossile, le charbon, à un combustible renouvelable, le granulé de bois. Après une année de travaux pendant laquelle la chaufferie a continué à assurer ses missions, cette dernière a été inaugurée en avril dernier. Le réseau de chaleur de la ville de Montpellier compte désormais 4 chaufferies fonctionnant au granulé de bois. Plus écologique que le charbon, il y a un impact moindre sur l'environnement.
Les tweets, gym rythmique. La gymnaste montpelliéraine Mathilde Lartigue a remporté la médaille de bronze au ruban lors du championnat de France de gymnastique rythmique à Montpellier. Toutes les infos sur le site du club montpellier-grs.fr.
Tourisme, trésor d'archéologie à Murviel, les Montpellier. Nouvelle visite proposée par l'Office de tourisme de la métropole le 14 mai à 14h30. Toutes les infos sur montpellier-tourisme.fr.
Littérature, le Montpelliérain Michel Moati, professeur à l'UM3 et ancien journaliste, a sorti un nouveau roman, Alice change d'adresse, aux éditions Hervé Chopin.
Numérique Act in Space, un concours de start-up à l'IAE Montpellier les 20 et 21 mai. Objectif, créer des applications à partir de données spatiales. Actinspace.org pour les infos.
Grand vin, 5 vins du domaine Belle-Pierre à Murviel-les-Montpellier seront sur les tables de l'Élysée cette année, la 3e fois en 8 ans. Les infos sur le domaine, sur le site domaine-belle-pierre-au-pluriel.com.
Santé. Le centre de santé d'homéopathie porté par l'association Homéopathie pour tous a été inauguré le 2 avril à Castelnau-le-Lez. Plus d'infos sur homéopourtous.sup.fr.
Hockey sur glace, les Vipers, champions de France de Détroit, ont remporté leur match de barrage et évolueront en deuxième division la saison prochaine. Le site du club montpellier-vipers.com.
L'événement, littérature, la métropole fait sa Commedia del Libro. Du 27 au 29 mai, près de 200 écrivains iront à la rencontre du public sur l'esplanade Charles de Gaulle et dans les communes de la métropole. Parmi ces talents de la littérature, 35 grands auteurs italiens représenteront leur pays, invités d'honneur de cette 31e et première édition métropolitaine.
La Comédie du Livre, qui s'est imposée comme la plus grande manifestation littéraire du sud de la France, prend cette année une dimension métropolitaine. En amont du 22 mars au 26 mai, lors des préfaces de la Comédie du Livre ou au cœur de l'événement, le week-end du 27 au 29 mai, 21 communes de la métropole participent à cette 31e édition. Nous avons voulu partager le plaisir de la fête du livre sur tout le territoire, précise Bernard Travier, vice-président délégué à la culture. Cette volonté politique d'ouvrir les grands rendez-vous culturels, comme la Comédie du Livre, permet à la fois d'offrir la possibilité aux habitants de prendre part à la culture et aux communes d'être actrices de la littérature. 10 rencontres d'auteurs sont notamment programmées pendant les 3 jours de la manifestation dans les médiathèques, les bibliothèques ou des lieux patrimoniaux tels que le château de Castries, le château des Évêques à la Vérune, le chai du Terral à Saint-Jean-de-Védas ou le site archéologique Latara à Latin.
Pour faire de cette première édition métropolitaine une réussite, la programmation s'est encore étoffée. Après l'Espagne en 2015, c'est l'Italie qui est mise à l'honneur cette année. Une littérature résolument tournée vers l'avenir qui revêt une dimension politique forte. 35 de ses meilleurs auteurs contemporains seront notamment présents sur l'esplanade Charles de Gaulle. Parmi ces pointures, citons Claudio Magris, Secret Rivage 2015, un des géants de la littérature européenne, Milena Agus, Sans dessus dessous, Liana Levy 2016, dont le best-seller Mal de pierre sera prochainement adapté au cinéma par Nicole Garcia, Luciana Castellina, Prends garde, Liana Levy 2015, une des grandes consciences politiques en Italie, Giancarlo De Cataldo, Subura, chez Métayer en 2016, magistrat et superstar du polar, ou encore les dessinateurs Roberto Innocenti ou Lorenzo Mattotti, qui a signé de sa touche onirique l'affiche de cette 31e édition.
Depuis le 22 mars, c'est le coup d'envoi des préfaces de la Comédie du Livre sur tout le territoire. Chacun a pu faire son menu à l'italienne. Cette 31e édition de la Comédie du Livre marque un temps fort de l'année dans le rapprochement entre Montpellier et l'Italie, souligne Bernard Travier. Ce partenariat au cœur de la stratégie euro-méditerranéenne de la ville et de la métropole de Montpellier sera gravé dans le marbre en juin prochain avec la signature du jumelage avec Palerme. Par ce 7e jumelage avec une ville méditerranéenne, après Kos en Grèce, Tibériade en Israël, Tlemcen en Algérie, Fès au Maroc, Bethléem en Cisjordanie et Barcelone en Espagne, Philippe Sorel, maire de Montpellier et président de la métropole, entend développer une coopération économique et culturelle privilégiée avec les villes du pourtour méditerranéen. Plus d'infos sur cet événement en allant sur comediedulivre.fr.
Ils seront aussi à la Comédie du Livre les auteurs de la rentrée littéraire. Une centaine de coups de cœur repérés par les libraires participeront aux traditionnelles séances de dédicaces. Les journalistes écrivains Sorge Jalandon, Edoui Plenel, Pierre Assouline, Mishka Assayas ou Jean Bimbaum, le Goncourt 2012 Jérôme Ferrari, la comédienne Macha Merrill, la nouvelle star du polar français Sandrine Collette, le coup de cœur de Régis Penalva, directeur de la Comédie du Livre, Charles Robinson, l'auteur de la littérature jeunesse, Pierre Dely.
Carte blanche a été donnée à Maïlis de Kerangal en photo, ici, qui a déjà vendu son livre « Réparer les vivants » aux éditions Verticales en 2014 à plus de 500 000 exemplaires. Cette romancière de 49 ans se promènera dans des lieux patrimoniaux de Montpellier, comme le Jardin des Plantes ou la Faculté de médecine, accompagnée de 7 écrivains et penseurs de son choix.
La maison d'édition Verdier. Pour cette 31e édition, la Comédie du Livre accueillera la maison d'édition Verdier ainsi que 10 de ses auteurs, les Italiens Walter Citti et Antonio Moresco, mais également Patrick Boucheron et Pierre Bergougnou, entre autres.
Le réseau des médiathèques, sur le stand des médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole, des ateliers manga et bande dessinée seront notamment proposés aux enfants. 8 rencontres avec des auteurs de la Comédie du Livre se dérouleront également dans les médiathèques et bibliothèques des communes du territoire.
En photo ici, quelques-uns des auteurs attendus à la Comédie du Livre cette année, de gauche à droite, Giancarlo De Cataldo, Sandrine Collette, Claudio Magris et Jérôme Ferrari. Décision. Un budget maîtrisé et dynamique. Retour sur le Conseil de Métropole qui s'est tenu le jeudi 14 avril. Décryptage par Max Levita, vice-président délégué aux finances, premier adjoint au maire de Montpellier.
Ce budget d'un montant consolidé de 905 millions d'euros a été préparé en concertation avec les 31 maires de la métropole et adopté en conseil à l'unanimité des voix exprimées. Il s'articule autour de 2 grands axes, la stabilité fiscale pour préserver le pouvoir d'achat des habitants et le dynamisme et l'investissement afin de soutenir l'économie locale. Comme le président Philippe Sorel s'y était engagé, la métropole n'augmente pas ses taux d'imposition. Cette année encore, nous nous situons ainsi parmi les métropoles françaises les plus vertueuses fiscalement depuis le début de la mandature. comme en témoigne la carte sur cette page. Cette stabilité fiscale est d'autant plus remarquable que nos recettes sont en baisse dans un contexte de réduction des dotations de l'État qui nous a déjà fait perdre 25 millions d'euros depuis 2013. Elle est rendue possible par une recherche constante d'économies tout en garantissant le même niveau de service. À l'exemple des guichets uniques mutualisés qui permettent des économies d'échelle tout en facilitant les démarches des usagers, aussi bien communales que métropolitaines. Par ailleurs, avec 209 millions d'euros d'investissement en hausse de 17%, nous démontrons notre capacité à préparer l'avenir à travers des projets structurants ou de proximité au service des habitants et de ces entreprises. Ce haut niveau d'investissement, lié en partie au transfert de la compétence voirie des communes, permet de soutenir la croissance et l'emploi sur le territoire. Ainsi, ce budget 2016 traduit en termes financiers les objectifs de la métropole, rendre l'action publique plus pertinente, plus dynamique et plus efficace. À noter que la taxe d'habitation et la taxe foncière non bâtie sont établies à partir de la valeur locative cadastrale du logement fixée par l'État. Le produit de ces taxes est perçu par la commune et la métropole qui chacune fixe des taux d'imposition sur leur part. Sur le foncier bâti, le département perçoit également une part.
Impôts locaux, 0% d'augmentation, une exception en France. Le bloc communal Ville de Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole est le seul en France à ne pas avoir augmenté sa fiscalité depuis le début de la mandature en 2014.
Sur cette page, une carte de France qui nous montre l'évolution de la fiscalité ménage de 13 métropoles hors Paris, qui est à la fois ville et département, et leur ville-centre sur leur budget 2015 et 2016. On constate ainsi qu'à Marseille, il n'y a pas d'augmentation pour la métropole. En revanche, augmentation prévue par la ville. À Nice, augmentation pour la métropole, stagnation pour la ville. À Grenoble, augmentation pour la métropole, stagnation pour la ville. À Lyon, augmentation pour la métropole et pour la ville, tout comme à Strasbourg. À Lille, augmentation des taux pour la ville, stagnation pour la métropole. À Rouen, augmentation pour la ville, stagnation pour la métropole. À Rennes, augmentation pour la métropole, stagnation pour la ville. À Brest, augmentation pour la métropole et stagnation pour la ville. À Nantes, stagnation pour la ville, augmentation pour la métropole. À Bordeaux et à Toulouse, augmentation pour la métropole et pour la ville. Et donc à Montpellier, pas d'augmentation pour la métropole et pour la ville.
Comprendre la fiscalité. 59% des recettes de la métropole proviennent des impôts locaux, dont 24% prélevés sur les ménages et 35% prélevés sur les entreprises.
Dans le détail, pour les ménages, taxe d'habitation 81,2 millions d'euros, taxe sur le foncier bâti 1 million d'euros, taxe sur le foncier non bâti 0,8 millions d'euros, taxe d'enlèvement des ordures ménagères 67,3 millions d'euros. Pour toutes ces taxes, il n'y a pas d'augmentation des taux. Pour les entreprises, cotisation foncière des entreprises 57,5 millions d'euros et pour la cotisation sur la valeur ajoutée 28,6 millions d'euros, dans ces deux cas, pas d'augmentation des taux. TASCOM, 5,7 millions d'euros, soit le taux national. IFER, 1,6 millions d'euros, c'est le taux national. Et pour le versement transport, 83,3 millions d'euros, ce sont les tarifs nationaux.
Des investissements en hausse de 17%. 209 millions d'euros, c'est le total des investissements. Le maintien d'un haut niveau d'investissement à 209 millions d'euros permet de soutenir l'économie locale à travers la commande publique. En progression de 17%, il représente un effort élevé réalisé grâce aux économies sur les dépenses de fonctionnement. En effet, 1 million d'économies de fonctionnement a un effet levier de l'ordre de 12 millions d'euros sur l'investissement. Voici une présentation des grands investissements 2016.
48,1 millions d'euros sont consacrés aux espaces publics, 38,1 millions d'euros pour l'urbanisme, l'habitat, la cohésion sociale et les grandes infrastructures. Dans le détail, 16,6 millions d'euros pour le contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier, 5,7 millions d'euros pour la desserte de la gare nouvelle de Montpellier, 8 millions d'euros au titre des attributions des aides à la pierre de l'État, 2,5 millions d'euros aide à la construction de logements sociaux et 0,9 millions d'euros pour les projets de rénovation urbaine.
32,5 millions d'euros consacrés au transport et mobilité. Dans le détail, 19,6 millions d'euros pour le bouclage de la ligne 4 de tramway, 3,1 millions d'euros pour l'acquisition de 9 bus au gaz naturel de ville, 2,8 millions d'euros pour la rénovation des rames et distributeurs de titres de tramway, 2 millions d'euros pour les études et travaux de la station de Boirague, ligne 3, 1 million d'euros pour la modernisation du tunnel de la Comédie.
Autre investissement, 26,7 millions d'euros pour l'eau, l'assainissement, la prévention des inondations. Ils sont répartis comme suit, 10,8 millions d'euros pour le schéma directeur d'assainissement, 5,8 millions d'euros pour les travaux courants des réseaux, 2,2 millions d'euros pour la protection contre les inondations de la basse vallée du Lez, 1,4 millions d'euros pour l'aménagement des locaux de la régie des eaux, 1,3 millions d'euros pour l'extension de la station d'épuration Maera.
25,6 millions d'euros consacrés au développement économique et aménagement du territoire. Dans le détail, 4,7 millions d'euros pour les acquisitions foncières, 2,2 millions d'euros pour l'aménagement de parcs d'activités, 1,8 million d'euros pour le schéma directeur de l'aménagement numérique et enfin 1,4 million d'euros pour la réhabilitation de l'ancien hôtel de ville pour la French Tech.
14,1 millions d'euros sont budgétés pour la culture, soit 2,8 millions d'euros pour la rénovation d'établissements culturels, 2,7 millions d'euros pour la réhabilitation du quorum, 1,6 millions d'euros pour la rénovation de l'Agora de la Danse et 1 million d'euros pour les travaux au musée Fabre.
13,4 millions d'euros pour les sports, 4,4 millions d'euros pour le parc multiglisse Gérard Bruyère, 2,9 millions d'euros pour le complexe sportif Yves du Manoir, 1,85 millions d'euros pour la piscine Héraclès de Saint-Bresse.
Enfin, 5,3 millions d'euros pour l'environnement et la gestion des déchets, soit 3,8 millions d'euros pour le matériel et les équipements de collecte et de tri, 1,5 millions d'euros pour les aménagements du centre de stockage des déchets de Castries. Les dépenses par habitant, voirie et transport, 392 euros. Action économique, aménagement du territoire et habitat, 290 euros. Culture et sport, 284 euros. Environnement, 272 euros. L'eau et l'assainissement coûtent à chaque habitant 62 euros. Enfin, sécurité et téléalarme, 43 euros.
À noter dans votre agenda, la date du jeudi 26 mai à 16h30, c'est la date du prochain Conseil de Métropole. Communes, fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole. Saint-Bresse, carte au parti dans les rues du village. En mars, les élèves de la classe de CM2 de l'école Jean de la Fontaine à Saint-Bresse ont vécu une matinée originale. Au programme, une participation à une carte au parti organisée par la Métropole qui consiste à collecter des données sur le terrain afin de les intégrer à la plateforme Open Data de la collectivité et sur OpenStreetMap. Reportage.
Ces crayons en main équipés d'un plan détaillé de la commune et d'une feuille de papier pour reporter les informations recueillies sur leur chemin que la vingtaine d'élèves de la classe battent le pavé. Leur mission, assurer le succès de cette cartopartie en répertoriant tous les équipements publics et privés de leur commune. Écoles, commerces, parcs, jardins, équipements sportifs, places de parking pour les personnes en situation de handicap, ils ont l'œil. Les participants suivent un parcours prédéfini dans les rues de Saint-Bresse, depuis leur école jusqu'à la mairie en passant par la place de la Champagne, le parc de l'Escargot et le stade municipal. Cette activité pour le moins insolite a fait l'unanimité chez les enfants très motivés à l'idée d'y contribuer. C'est très pratique pour apprendre à se repérer et découvrir notre village, commente Emma, une élève de CM2. De son côté, Jérémy, l'un de ses camarades apprécie d'être dehors dans la nature pour réaliser un projet de classe. En plus de l'engouement suscité par cette carte au parti, celle-ci s'inscrit pleinement dans le cadre scolaire. Elle est en phase avec le programme officiel de géographie dans lequel il est indiqué que les élèves doivent apprendre à lire une carte et à se situer dans l'espace. Et en plus, les enfants sont mis en situation sur le terrain, explique Thierry André, professeur à l'école Jean de la Fontaine.
Ce n'est pas la première carte au parti organisée par la Métropole. Plusieurs rendez-vous ont déjà eu lieu, par exemple avec les membres du Conseil municipal des jeunes à Vendargues ou encore avec les membres de l'Association des anciens de Castries. L'intérêt est de sensibiliser tous les publics aux usages possibles de l'open data en leur montrant comment cela fonctionne et comment y contribuer. En participant à cette opération, les enfants se sentent utiles à la collectivité. Nous avons déjà prévu d'organiser une nouvelle campagne de collecte de données, précise Bérangère Val, adjointe déléguée à la jeunesse à la mairie de Vendargues. Depuis 2012, la Métropole travaille à la construction d'un site internet concentrant un maximum de données en provenance de ses communes. À ce jour, 10 municipalités se sont associées à cette démarche. Sur cette plateforme en ligne, les usagers peuvent consulter diverses informations mutualisées sur le transport, la culture ou encore l'aménagement. Une source inépuisable de données qui, si elles sont traitées par des particuliers ou des entreprises, peuvent donner naissance à des applications et des services innovants. Plus d'informations sur data.montpellier3m.fr.
Et on aperçoit ici les élèves de l'école Jean de la Fontaine et leurs professeurs lors de la cartopartie organisée le 22 mars dernier dans les rues de Saint-Bresse. Restinclière, les associations font leur sport, tai chi, tennis, basket, football, quidditch, taekwondo, marche, rando, cross-country, pétanque, parcours d'orientation, quai sur gazon, mais aussi dessin, maquillage, art culinaire, taille de pierre. Le samedi 21 mai, de 10h à 16h, les associations de la commune font leur sport sur l'espace fête. Lors de cette manifestation organisée par la commission festivités et les associations des ateliers, des démonstrations et des initiations seront proposées à toute la génération pour pratiquer une activité ou tout simplement prendre un bol d'oxygène et de convivialité. Des animations prolongeront la fête en musique jusqu'à 23h. Les infos sur le site de la commune restinclière.com.
Un dimanche de marché à Castries. Dimanche 8 mai, vous pourrez admirer et humer les senteurs des fleurs et plantes que les pépiniéristes et maraîchers vous proposeront d'acheter pour garnir vos jardins, terrasses et balcons. Le 24e marché aux fleurs, au vin et à l'artisanat, organisé par la mairie de 9h à 18h, place du Cartel, sera également l'occasion de rencontrer les viticulteurs et artisans locaux. Ils échangeront sur leur savoir-faire et vous feront découvrir leurs produits. Un numéro de téléphone 06 11 27 33 64 et un site internet castries.fr.
À Sussargues, le printemps des entreprises. Parole de maire avec Eliane Liorette, maire de Sussargues, vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole. Samedi 28 mai, les entreprises sussargoises seront à l'honneur. La municipalité organise une journée de rencontres avec ceux qui font l'économie locale. Instructif.
Sussargues est un village de 2800 habitants qui possède une économie locale d'une richesse insoupçonnée. Près de 80 entreprises, commerçants, auto-entrepreneurs, professions libérales et artisans sont installés dans notre commune. Un annuaire recensant ces professionnels sera mis en ligne sur le site de la mairie. Une trentaine de ces entreprises seront présentes le samedi 28 mai au premier printemps des entreprises. Cette journée conviviale qui se tiendra de 10h à 18h dans la cour de l'école élémentaire a été conçu par un comité de pilotage orchestré par Marie-Thérèse Sartini, élue à l'Action économique. Proposée à l'origine par un jeune entrepreneur installé au village, elle sera l'occasion pour les entreprises de se faire connaître et l'opportunité pour les habitants de découvrir l'ensemble des métiers exercés à Sussargues. Des témoignages et démonstrations de métiers, des échanges sur la vie d'entrepreneurs intéresseront tous les publics, des jeunes en recherche d'orientation aux adultes en reconversion professionnelle. Plus d'infos sur le site ville-sussargues.fr.
Juvignac, livraison d'une troisième école. Face à la hausse constante des effectifs scolaires depuis 2011, plus 43% d'élèves, la construction d'un troisième groupe scolaire s'avérait être une priorité. Le chantier a démarré et dès la fin de l'année, 150 écoliers juvignacois seront déjà accueillis dans cette nouvelle école Nelson Mandela. À terme, au premier trimestre 2017, elle comptera 16 classes maternelles et élémentaires. De conception écologique, cette école sera construite en module bioclimatique de pin Douglas des Cévennes. Les infos sur le site de la commune ville-juvignac.fr.
Latte, Villeneuve-les-Maguelones, fête de la nature. Le dimanche 22 mai, la nature est en fête. À la Maison de la Nature de Latte, venez partager les connaissances de passionnés et découvrir des trucs et astuces sur le recyclage, le jardinage, l'alimentation. Vous pourrez participer à des sorties nature autour du Méjean, à des ateliers-jeux réalisés par l'association Développement solidaire et durable de Montpellier, visiter une exposition sur les actions en faveur de la réduction des déchets et des économies d'énergie et suivre la démonstration de tressage végétal réalisée par l'atelier Éric Barret. Un numéro de téléphone pour plus d'informations 04 67 22 12 44, un site internet ville-latte.com. www.fillemaglone.fr.
Rendez-vous de 13h30 à 18h et aux salines de Villeneuve-les-Maglones, suivez le fil de l'eau, tantôt doux, tantôt salé, des salines vers l'étang de l'Estagnol et découvrez la diversité des paysages qui s'offrent à vos yeux. Au détour d'une roubine, vous aurez peut-être l'occasion de croiser une tortue cistude d'Europe. Ce sera de 9h30 à 12h, les renseignements au 04 67 13 88 57 ou sur cenlr.org. À Bayargues, les super-héros de Monsieur Garcin, jeune artiste montpelliérain autodidacte. Monsieur Garcin crée des collages de comics. Son talent a notamment conquis les dirigeants des éditions Marvel qui ont utilisé une de ses œuvres pour la couverture du 700e numéro d'Amazing Spider-Man. Du 21 au 28 mai, Bayargues accueille cet artiste au style figuratif unique à la galerie Reynaud. Vernissage le 20 mai à 19h. L'entrée est libre.
Saint-Geniès-des-Mourgues, course à pied et à deux roues. Le duathlon à Saint-Geniès-des-Mourgues, c'est dimanche 22 mai. Venez tester le circuit course à pied de 7,5 km et le circuit VTT de 17 km dans le site prestigieux et ombragé des carrières de la commune. Cette 22e édition organisée par le foyer des jeunes n'oublie pas les enfants. Un nouveau circuit attend les amateurs des sports nature nés entre 2003 et 2006. Les infos sur duathlon-saint-geniès.com et par téléphone au 04 99 66 53 25 ou au 04 67 86 26 75.
À Cournonterra les Pignans, balade, œnologie et gourmandise. Organisé par le syndicat des collines de l'Amour et la municipalité de Pignan en partenariat avec la ville de Cournonterra, les délices de l'Amour invitent samedi 28 mai les épicuriens à une balade gourmande et œnologique. 5 km à travers la garrigue ponctuée de haltes gourmandes élaborées par Cabiron Traiteur et de dégustation de vin des collines de l'Amour. Réservation au 04 67 47 70 11 et plus d'infos sur ville-cournonterral.fr.
Murviel et Montpellier. 250 artistes à la fête du rat. C'est une fête pas comme les autres que concocte chaque année depuis 20 ans la compagnie de théâtre Art Mixte à Murviel-les-Montpellier. La fête du rat tient ses origines des représentations publiques, des ateliers de pratique théâtrale que Joël Collot encadre depuis 1996. Depuis, la compagnie invite aussi à se produire des ateliers de la région et de la France entière. Cet événement réunit chaque dernier week-end de mai des centaines d'artistes professionnels et amateurs pour une fête de village atypique. Ce projet perdure grâce à l'existence du collectif RAT, qui regroupe une centaine de personnes bénévoles, tous âges confondus, engagées passionnément pour lui donner encore plus d'humanité. Pour cet anniversaire du 25 au 29 mai, le public découvrira partout sur les places, dans les jardins, sous le chapiteau ou dans les salles, 250 artistes en herbe qui présenteront leurs spectacles d'atelier et plus de 50 artistes professionnels de la rue, du cirque ou du théâtre qui proposent leurs dernières créations. Cette année, Art Mixte fait appel à un financement participatif pour faire venir la pièce biélorusse de la compagnie théâtre Kriali Alopa, Tchernobyl. Soutenez-les sur kisskissbankbank.com/20e-fête-du-ra-artmixte.com.
À Castelnau-le-Lez, au son des musicales, les musicales, festival musique et chant organisé par le service culturel de la ville de Castelnau-le-Lez, programme 3 soirées à 19h30 en l'église Saint-Vincent. Dimanche 22 mai, flûte, violoncelle et piano par Isabelle Ménessier pour la flûte, Laurence Alala au violoncelle et Galina Soum au piano, en partenariat avec l'Opéra Orchestre National Montpellier. Dimanche 29 mai, convergence latine par Sophie Grattard au piano, Michel Régnier à la flûte, Cyril Tricouard au violoncelle et Alexandra Dauphin mezzo-soprano en partenariat avec l'Opéra Orchestre National Montpellier. Dimanche 5 juin, orchestre de chambre du Languedoc, un ensemble instrumental composé de musiciens à cordes, dirigé par le violoniste Alexandre Benderski. Les tarifs de 5 à 8 euros, le pass pour les 3 concerts est à 15 euros. Les renseignements, c'est au 04 67 14 27 40 ou sur castelnau-le-lez.fr.
Saint-Georges d'Orque, quand sport rime avec solidarité. Samedi 28 mai, l'association La Ronde Saint-Georgienne organise une course autour de Saint-Georges-d'Orque à but sportif et caritatif. Côté sport, cette 10e édition de La Ronde Saint-Georgienne mènera les coureurs à la découverte de la garrigue et des terroirs viticoles tout au long de ces 10 km parsemés de multiples petites côtes. Côté solidarité et à l'instar des 4 dernières années, 1 euro par inscription sera reversé à l'APEI Frontignan Pays de Taux, IME les Hirondelles, ainsi que la totalité des sommes perçues à l'occasion de la tombola. Cet établissement travaille au développement de jeunes enfants et adolescents en situation de handicap. L'an dernier, l'association a récolté 2100 euros. De nombreux sportifs de haut niveau sont attendus. Départ de la course à 18h au Centre communal des rencontres Michel Colucci. Plus d'infos sur ville-st-georges. -dorque.fr.
Avant d'Argue, What the Fest, l'association en argoise What the Fest, présidée par l'auteur de BD Petit Luc, organise samedi 4 juin le premier festival éco-citoyen de plein air à la Cadoule, en partenariat avec la municipalité de Vendargues. Durable, solidaire et local, cet événement festif, qui s'inscrit dans l'agenda 21 de la commune, s'engage à limiter son impact sur l'environnement et à le rendre accessible au plus grand nombre. Cette journée de musique, animation, enfants et détente en famille avec petits marchés bio et éco-village sera suivi d'une soirée-concert avec 6 artistes à l'affiche. Skeleton Band, Zob, Le Pleplo, Live Looping, Dimoné, Sophie Major et Signal Carré. Rendez-vous de 10h à 1h du matin. Et pour en savoir plus, le site whatthefest.com.
Jacou, de la Commedia dell'Arte à Shakespeare. Du 10 au 14 mai, la ville de Jacou et son théâtre La Passerelle offrent une carte blanche à la Compagnia dell'Improviso qui fête ses 20 ans. Sous la direction artistique de Luca Franceschi, la compagnie puise dans la Commedia dell'Arte l'élan de création d'un théâtre populaire contemporain. À l'affiche, 5 spectacles dont Roméo et Juliette avec le trio Zéphyr, qu'on voit en photo, exposition, rencontre et guinguette. Des infos par téléphone au 07 81 97 79 04 et par internet improviso improviso.org.
Histoire de café à La Vérune, un arôme de café parfume le village par vent du nord depuis plus de 45 ans. Il émane de l'usine de torréfaction créée par le Montpelliérain Jacques Vabre en 1969, entré dans la petite entreprise familiale de café de son beau-père dès 1946. À La Vérune, la première grande marque de café moulu sous vide naissait. Sur ce site de production, un paquet géant, aujourd'hui signé Carte Noire, marque le paysage au nord de la commune. Depuis le décès de Jacques Vabre en 1997, à l'âge de 67 ans. L'usine a connu différents rachats. En mars dernier, le groupe italien Lavazza rachetait Carte Noire, dont l'usine de La Vérune fait partie. 6e torréfacteur de café dans le monde, Lavazza va concentrer sur ce site 100% de la production de Carte Noire. Du café moulu et en grains aux dosettes souples en passant par les capsules. Le transfert de production situé à l'étranger, notamment en République tchèque, est en cours. Au total, cette usine emploiera 140 salariés et sera équipée de 9 appareils de torréfaction ainsi que de 8 lignes de production, annonce le groupe italien. Avec ce rachat, la France devient le 2e marché de Lavazza après l'Italie.
En action, culture, le singulier musée de l'art brut. Un musée passionnant a ouvert ses portes le 9 avril à Montpellier qui présente 750 œuvres d'art brut et singulier dans un espace de 800 mètres carrés au cœur du quartier des Beaux-Arts. Les enfants du créateur zinguiste Fernand Michel, qui donne son nom à ce musée, ont mis 7 ans à boucler ce projet grâce à des mécénats privés et à la ville de Montpellier, un lieu à visiter absolument.
Œuvres d'autodidactes qui n'ont jamais prétendu au statut d'artiste, l'art brut est un art populaire. Il a été inventé par le peintre Jean Dubuffet à partir d'œuvres qu'il a glanées auprès des pensionnaires d'hôpitaux psychiatriques comme Aloïs Corbaz, emblématique de l'art brut, dont plusieurs œuvres sont à voir au musée de Montpellier. André Robillard, toujours soigné dans un hôpital d'Orléans, et Carlo Zinelli, jeune paysan italien traumatisé par la guerre, font aussi partie de ces fous de talents à découvrir dans ce musée des arts bruts, singuliers et autres, sans oublier les médiums comme Antoine Lesage qui, dans la mine de charbon où il travaillait, entendit des voix lui dictant de peindre. Comme un antidote aux excès de l'art mondain, l'art brut est selon Dubuffet l'expression d'une liberté totale d'inspiration, sans limite ni tradition. Dénué d'intellectualisme et d'académisme, il est aussi très accessible. Pour le découvrir, il suffit de pousser la porte du 1 rue Beauséjour au Beaux-Arts à Montpellier et d'entrer dans ce beau lieu. Passer les premières salles consacrées à l'art brut, mais aussi l'art singulier, le folk art et l'art postal, et après un patio décoré de sculptures, on arrive à la maison d'enfance de Patrick et Denis Michel, les deux frères à l'origine de la création de l'atelier-musée Fernand Michel, leur père.
Relieur d'excellence, Fernand Michel, après le travail, s'enfermait dans son atelier pour travailler des plaques de zinc et réaliser toutes sortes de compositions, souvent teintées d'érotisme et d'humour, qui furent exposées en France et en Allemagne. C'était un personnage. Il a donné beaucoup d'œuvres à beaucoup d'amis qui lui en ont donné en retour. À sa mort en 1999, nous avons cherché à sauvegarder cette collection, explique Patrick Michel. 7 ans plus tard, l'association qu'il a constituée avec son frère a réuni près de 250 œuvres issues de dons ou d'achats réalisés avec l'aide de mécènes passionnés par cet art si singulier. Après une visite en présence de Philippe Sorel, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole, le musée a ouvert ses portes le 9 avril dernier. Avec le centre d'art contemporain que la métropole va créer à l'hôtel Montcalm en 2019, voilà un lieu qui s'inscrit dans un parcours d'exposition de grande qualité, a estimé Philippe Sorel.
Rendez-vous au 1 rue Beauséjour à Montpellier, ligne 2, arrêt Beaux-Arts, tarif de 6 à 8 euros, gratuit jusqu'à 10 ans. Plus d'infos sur atelier-musée.com.
Culture, le conservatoire prépare l'avenir. Plus de 1400 élèves fréquentent le conservatoire à rayonnement régional de Montpellier Méditerranée Métropole. La métropole travaille sur la relocalisation de cet établissement sur le site de l'ancienne maternité Grasset dans le quartier de Boutonnet à Montpellier. Un projet estimé à 35 millions d'euros hors taxes qui permettra d'améliorer le confort d'apprentissage des élèves.
Le projet de relocalisation du conservatoire à rayonnement régional est en bonne voie. Il a été présenté en avril dernier par Philippe Sorel aux parents d'élèves et aux professeurs de l'établissement. Lors du dernier conseil de métropole, les élus métropolitains l'ont également adopté. En parallèle, les négociations financières avec le centre hospitalier universitaire, le CHU de Montpellier, sont en cours pour l'acquisition du bâtiment de l'ancienne maternité Grasset. Actuellement, les enseignements du conservatoire sont dispensés principalement sur deux sites à Montpellier. Montpellier, Lisbonne et Candolle, des locaux dont le niveau de vétusté et les surfaces contraintes rendent complexe le développement de l'institution dirigée par Patrick Pouget. Depuis la rentrée de septembre, 2 nouvelles disciplines ont été créées, un enseignement initial en art dramatique et un second en musique ancienne en collaboration avec le Centre international de musique médiévale.
La métropole souhaite recentrer la majorité des activités du conservatoire sur un même lieu et garantir des conditions de fonctionnement optimales aux élèves et aux enseignants, explique Bernard Travier, vice-président de la métropole délégué à la culture. Notre choix s'est donc porté sur le site de l'ancienne maternité Grasset, inoccupé depuis plusieurs années et qui permettra d'accueillir 2200 à 2300 élèves à l'horizon 2020 sur 6700 m² contre seulement 3400 m² aujourd'hui. Le coût de l'opération est évalué à 35 millions d'euros hors taxes. La livraison du bâtiment et son ouverture au public devraient intervenir fin 2019. Un investissement de 35 millions d'euros dans un équipement culturel est aujourd'hui rare en France, insiste Philippe Sorel. Ce projet permet également de proposer une deuxième vie à un ancien établissement public, de mettre en valeur un site patrimonial et enfin de rendre accessible le conservatoire grâce au passage du tramway à ses abords. Un pas de plus en avant pour conforter l'excellence du conservatoire de Montpellier et renforcer son attractivité.
Des grénothèques dans les médiathèques, culture de la terre et de l'esprit, se croisent dans les médiathèques où viennent d'être créées 2 grénothèques. En pleine saison de semis et plantations, le public est invité à échanger, collaborer, expérimenter autour du jardinage. Une initiative originale et dans l'air du temps.
90% des Français ont des plantes vertes et 30% jardinent quotidiennement. Le Languedoc est la 3e région pour les dépenses en jardinerie, un secteur en plein boom. Dans les jardins, mais aussi sur les balcons et terrasses, toutes les générations jardinent des plantes décoratives, mais aussi aromatiques et potagères. Le potager urbain est très tendance. Les médiathèques répondent à cet engouement avec des livres sur le jardinage qui remplissent un conséquent rayon à l'étage sciences et loisirs de la médiathèque centrale Émile Zola. Et maintenant, avec un système de troc de graines, fin février, nous avons déposé un certain nombre de graines dans une boîte avec leur nom et des indications sur les dates de semis et de récolte fournies par l'association Graines de Troc, mais aussi des collègues, explique Hélène Ebenstedt, la bibliothécaire responsable du projet. La grainothèque s'est bien vidée depuis. L'idée est qu'elle se remplisse à nouveau à l'automne, après les récoltes, quand les jardiniers reviendront avec leur sélection de graines qu'ils déposeront à leur tour dans la grainothèque. Chacun peut partager ses trucs et astuces sur un petit cahier, mais attention, ce système fonctionne uniquement avec des graines traditionnelles qui peuvent être replantées, ce qui n'est pas le cas de la plupart des graines vendues dans le commerce, robustes et productives.
Une seconde grainothèque a vu le jour début avril à la médiathèque William Shakespeare dans le quartier Petit Bas, en partenariat avec l'association La Main Verte, qui rassemble 45 adhérents cultivateurs des jardins partagés des Hautes de Massane et de la Pergola. Sa présidente Farida Oubani est venue avec trois adhérentes pour remplir les sachets du fonds de départ de la grainothèque fourni par diverses associations et l'écolothèque de Montpellier Méditerranée Métropole. Nous alimenterons la grainothèque, c'est un projet participatif. Nous cultivons des légumes pour notre consommation mais aussi pour créer du lien social et nous saisissons toutes les occasions d'ouvrir le quartier sur l'extérieur. Les commerçants du quartier ont apporté leurs graines en fournissant des caisses de bouteilles de vin pour fabriquer en version récup le meubles de la grainothèque. Les enfants des écoles du quartier participeront également au projet sur le thème « Les jardins saugrenus ». Ils planteront des graines mystères et feront des hypothèses au cours de la progression de la plante dans une démarche qui suscite l'imaginaire et initie à la science, explique Isabelle Gassang, responsable de la médiathèque. Un projet 100% collaboratif. Pour en savoir plus, médiathèque au pluriel, .montpellier3m.fr. On aperçoit ici les adhérentes des jardins partagés de la Pergola et les agents de la médiathèque William Shakespeare de Montpellier Méditerranée Métropole qui se retrouve pour remplir la grainothèque.
En chantier, Écocité, agriculture urbaine à Eureka. 1200 arbres fruitiers ont été plantés sur les 4 hectares de vergers d'Eureka, futur quartier majeur de l'Écocité à Castelnau-le-Lez.
Eureka est un exemple de cette nouvelle manière d'aménager le territoire qui n'oppose pas urbanisme et environnement, apprécie Stéphanie Jalin, vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, au développement et à l'aménagement durable du territoire. Espace préservé à la frontière de Montpellier, l'extension de la ZAC Eureka résulte d'un partenariat entre la métropole de Montpellier et la ville de Castelnau-le-Lez. Ce projet emblématique répond aux enjeux de la ville de demain. Maîtriser la problématique hydraulique, protéger la biodiversité et proposer des services innovants aux populations. Ce quartier phare de la cité intelligente, doté de logements, de bureaux, de commerces et d'activités, offrira notamment des services dédiés aux seniors et au bien vieillir.
Sur ces 39 hectares, 11 hectares d'espaces naturels, dont 4 hectares de vergers et de cultures maraîchères ont été prévus. Après une étude de sol approfondie menée par le laboratoire d'analyse microbiologique des sols, j'ai planté 1200 cerisiers, figuiers, abricotiers et pêchers le long du boulevard Philippe Lamour, détaille le Montpelliérain Félix Monteil, à qui a été confiée l'exploitation de ce verger urbain après consultation. J'installerai également un rucher afin de favoriser la pollinisation des cultures et de renforcer leur qualité. Depuis 2009, cette agriculture de 28 ans travaille 21 hectares d'oliviers à Montarnaud dans une démarche d'agriculture biologique. À Eureka, il sera également chargé de commercialiser sur place la récolte attendue dans 3 ou 4 ans. L'exploitant pourra interagir avec les habitants et utilisateurs du quartier grâce à une plateforme baptisée My Eureka qui les informera sur les récoltes, les cycles d'exploitation ou la vente de paniers. Un exemple d'agriculture urbaine dans une démarche raisonnée et de circuit court.
Stéphanie Jeannin est en photo ici le 8 avril. Elle plantait symboliquement le dernier cerisier du verger d'Eureka aux côtés de Jean-Pierre Grand, sénateur maire de Castelnau-le-Lez et Max Lévita, président de la CERM. Assainissement, Maïra et Palavas-les-Flots. Depuis 2009, la commune de Palavas-les-Flots est raccordée à la station d'épuration Maïra de Montpellier Méditerranée Métropole. Les infrastructures permettant ce raccordement ne fonctionnant pas de manière optimale, notamment par temps de pluie, des travaux d'amélioration de la capacité de transit, des ouvrages de refoulement des effluents sont nécessaires. Une convention a été signée entre la métropole et la communauté d'agglomération du Pays de l'Or pour engager ces études et travaux.
Enquête publique, aménagement du parc de la Maugère. Le secteur de la Maugère, situé sur les communes de Montpellier et Latte, est inscrit comme site stratégique au SCOT de Montpellier Méditerranée Métropole. La première phase du projet a fait l'objet d'une autorisation loi sur l'eau le 19 août 2015. La deuxième phase, qui consiste en l'aménagement hydraulique du parc de la Maugère, est soumise à une enquête publique du 9 mai au 9 juin. Ces aménagements, qui figurent dans le schéma directeur d'aménagement hydraulique du NEG-CATS, participeront notamment à la réduction des inondations dans les secteurs habités et les zones d'activité existantes, telles que Boirargues, le lycée Champollion, les AC de la Banquière, des Commandeurs, de Fréjorgues-Est. Le dossier et le registre d'enquête sont consultables au siège de Montpellier Méditerranée Métropole, en mairie de Montpellier, Latte et Pérol. Des permanences seront assurées à la métropole le 9 mai de 9h à 12h, le 25 mai de 16h à 19h et le 9 juin de 15h à 18h.
Le dossier.
Le dossier de votre magazine Montpellier Capital Glisse. En mai, les sports de glisse sont à l'honneur dans la métropole, d'abord du 4 au 8 mai en plein cœur de Montpellier avec le Festival international des sports extrêmes, le FIS World 2016. Les riders gagneront ensuite le littoral et la plage de Villeneuve-les-Maguelones du 12 au 16 mai à l'occasion du FestiKite, deux événements sportifs internationaux soutenus par Montpellier Méditerranée Métropole qui apportent chaque année leur dose d'adrénaline et de divertissement aux habitants du territoire. En coulisses, les sports de glisse se portent bien aussi. Ils sont source de développement économique et offre des débouchés touristiques pour la métropole et ses alentours. Découverte de ces deux événements sportifs pour faire le plein de sensations fortes.
À l'approche de sa 20e édition, le FIS World Montpellier est devenu un rendez-vous incontournable dans la métropole et à travers toute l'Europe. Le FestiKite, plus jeune, emprunte les mêmes traces que son aîné. Créé en 2008, l'événement prend progressivement de l'ampleur. Ces deux compétitions sportives internationales, entièrement gratuites et s'adressant à des publics d'horizons très différents, ont attiré respectivement 550 000 et 50 000 spectateurs lors de leurs dernières éditions. Les sports de glisse sont populaires et doivent le rester. Soutenir ces grands événements est donc essentiel. Ils nous permettent de réinvestir ces sports dits extrêmes, composants essentiels de l'identité du territoire, et d'en faire notre vitrine, affirme Jean-Luc Messonnier, vice-président délégué au sport et aux traditions. Cette dynamique doit se faire main dans la main avec les acteurs économiques et associatifs du secteur, actuellement en pleine croissance. Montpellier Méditerranée Métropole joue un rôle de premier plan dans le développement de ces événements. Partenaire du FIS depuis 2003, la métropole et, avant elle, l'agglomération de Montpellier confirme son soutien lors de chaque édition. Cette année, elle octroie 300 000 euros de subvention à l'événement qui a considérablement évolué depuis ses débuts, dont 50 000 euros pour le FIS Métropole, une série de compétitions amateurs organisées tout au long de l'année dans les communes du territoire. À partir de l'an prochain, plusieurs étapes auront également lieu sur plusieurs skateparks des quartiers de Montpellier. À l'image du FIS, le FestiKite bénéficie du soutien de la métropole depuis 4 ans. La collectivité investit environ 50 000 euros afin d'aider les organisateurs à faire grandir ce rendez-vous prisé par les kitesurfers du monde entier.
Pour répondre à la popularité croissante des sports de glisse, la collectivité va créer un centre multiglisse sur le parc Gérard Bruyère de Baillargues. Ce futur équipement métropolitain, dont les travaux d'aménagement débuteront à la fin de l'année, sera doté d'un plan d'eau artificiel de 6 hectares et agrémenté de plusieurs modules de saut. Il permettra à tous et à moindre coût de s'essayer au ski nautique et au wakeboard grâce à un système de téléski. Le lieu sera également mis à disposition des athlètes de l'équipe de France de ski nautique. Au-delà de l'événementiel, la collectivité doit créer de l'attractivité autour des sports de glisse en collaborant notamment avec ses voisins pour développer des activités complémentaires sur le littoral s'étirant de Port-Camargue à Sète, ajoute Jean-Luc Messonnier. L'organisation du FIS et du FestiKite génère d'importantes retombées économiques pour le territoire. À l'approche de la nouvelle édition du Festival international des sports extrêmes, dont le budget est de 2,2 millions d'euros, les organisateurs estiment que les commerces et les hôteliers locaux vont profiter d'environ 9 millions d'euros de retombées. Après l'Open Sud de France, les championnats de France de natation et le championnat d'Europe de karaté, la métropole de Montpellier accueille à nouveau deux événements internationaux d'envergure qui confortent ainsi sa position de capitale sport.
Le FIS a conquis le monde. Du 4 au 8 mai, le FIS, organisé en partenariat avec Montpellier Méditerranée Métropole, la ville de Montpellier et la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées revient sur les berges du Lez à Montpellier. Cette 20e édition réserve une multitude de nouveautés et une ouverture affirmée vers l'international.
Depuis ses débuts, le FIS prouve qu'il sait se renouveler pour susciter l'intérêt du public et faire toujours plus d'adeptes des sports de glisse. L'édition 2016 n'y échappe pas. L'ensemble des infrastructures et des modules a été repensé et offrira aux riders de nouvelles sensations. Le circuit de wakeboard permettra notamment aux athlètes de faire des sauts plus spectaculaires et le parcours de mountain bike plus long offrira une meilleure visibilité aux spectateurs. De nombreuses sessions nocturnes viendront également clôturer les journées de compétition sur le parvis de l'hôtel de ville de Montpellier. Les plus grandes stars de chaque discipline sont attendues. En BMX, l'une des plus spectaculaires, Logan Martin, Daniel Sandoval, Drew Bezanson ou encore Pat Cazet seront de la partie. Inédit, le FIS reçoit cette année la première étape de la Coupe du Monde de BMX Freestyle Spark, créée récemment et reconnue par l'Union Cycliste Internationale, l'UCI, en collaboration avec les équipes du FIS. À noter également les 30 avril et 1er mai, l'étape de la Coupe du Monde de Wakesurf organisée dans le cadre de l'opening du FIS, qui se déroulera au Gros du Roi, un programme alléchant en perspective.
Ce succès était pourtant loin d'être acquis lors de la première édition du FIS. C'est dans le cadre d'un projet scolaire qu'Hervé André Benoît, alors étudiant à Subdeco Montpellier, décide de créer un festival mettant en avant les sports de glisse. Je voulais partager ma passion et toutes les valeurs véhiculées par ces disciplines, mais aussi m'adresser à un très large public, explique-t-il. Devant les nombreuses difficultés, Hervé André Benoît ne se laisse pas gagner par le doute et persévère. Le festival se déroule à Palavas-les-Flots jusqu'en 2002, avant de migrer vers Montpellier, d'abord à Gramont et ensuite sur les berges du Lez, où il va connaître la consécration avec des records de fréquentation. Malgré les évolutions, nous prenons soin de garder l'esprit du départ, offrir un événement gratuit et un maximum de spectacles, souligne-t-il. L'aventure se poursuit toujours aujourd'hui, mais cette fois-ci aux quatre coins du monde.
En 20 ans, le FIS a su grandir doucement mais sûrement. Depuis 2 ans, plus du rendez-vous montpelliérain, le festival s'est exporté vers d'autres contrées, avec des étapes en Chine et en Malaisie. Cette année, profitant de l'internationalisation réussie de l'événement, les organisateurs proposent aux riders de participer au FIS World Series, une compétition planétaire en 5 étapes réunissant les meilleurs athlètes au monde dans BMX, skateboard, mountain bike, roller et wakeboard. Le premier rendez-vous aura lieu à Montpellier lors du FIS World, puis se poursuivra en juillet à Osijek en Croatie, en septembre à Denver aux États-Unis et à Edmonton au Canada, fin octobre à Chengdu en Chine. À l'occasion de chaque manche, les riders accumuleront des points et à la fin de l'année, un classement général désignera le grand champion dans chacune des disciplines. Ce nouveau format de compétition permet d'introduire plus d'enjeux et de donner une envergure supplémentaire au FIS. Plus d'une trentaine de villes ont postulé pour recevoir l'événement, précise Hervé André Benoît. Cette exposition mondiale est cruciale pour le développement de notre sport. Pour en savoir plus, FIS.fr. Et puis 2000, c'est le nombre de riders attendus au FIS World Montpellier 2016. Le public pourra apprécier et ou découvrir 6 disciplines des sports de glisse, dont le skateboard, le BMX, le roller, le VTT, le wakeboard et la trottinette.
Une grande finale pour le FIS Métropole. Le mercredi 4 mai, lors du FIS World Montpellier, les meilleurs riders locaux se disputeront la victoire lors de la grande finale du FIS Métropole. Une scène de choix où ils pourront s'illustrer devant un public venu en masse. De vraies graines de champions sont attendues. L'armada du Basic BMX de Clapiers sera bien représentée avec notamment Anthony Jean-Jean, Florian Ferras et Nicolas Briand, les 3 premiers du classement général, mais aussi Cyril Clavert. Depuis 2012, le FIS Métropole se déroule sous la forme de compétitions amateurs dans plusieurs communes du territoire. Chaque gagnant est ensuite automatiquement qualifié pour la grande finale. Cette année, 4 rendez-vous ont eu lieu à Fabrègues, Saint-Bresse, Castelnau-le-Lez, Épignan, attirant à chaque fois près de 70 riders. Nous collaborons étroitement avec les municipalités de la métropole pour organiser ces événements. Ils permettent de continuer à faire le FIS tout au long de l'année, de mettre un coup de projecteur sur des jeunes espoirs locaux et de leur donner l'envie de progresser, ajoute Hervé-André Benoît, organisateur du FIS.
Sur cette page, deux photos. La première prise l'an dernier, le FIS a connu une affluence record avec près de 550 000 spectateurs. Second cliché, en avril, à Pignan, dernière étape du FIS Métropole avant la grande finale de la compétition lors du FIS World Montpellier. Le FestiKite déploie ses ailes du 12 au 16 mai. Des riders du monde entier se retrouveront sur la plage de Villeneuve-les-Maguelones pour le FestiKite, le festival international de kite. Pour sa 9e édition, l'événement prend une nouvelle dimension en accueillant une étape du championnat du monde de kite foil. Coup de projecteur sur un sport en plein essor dans la métropole.
Le FestiKite tient bon la barre. D'une petite compétition locale, l'événement est aujourd'hui devenu un rendez-vous qui attire des kitesurfeurs internationaux. À l'occasion de cette nouvelle édition, une centaine de concurrents, professionnels et amateurs côte à côte, seront sur la ligne de départ pour remporter la première étape de la Silver Cup, organisée dans le cadre du championnat du monde de kite foil. Cette course prendra la forme d'une régate et mettra aux prises des adeptes du foil. Une planche de kite, très particulière, qui permet de voler au-dessus de l'eau. Au programme également l'international FestiKite Freestyle Contest qui promet déjà des figures et des acrobaties de haute volée. Le salon international de kitesurf se tiendra lui sur le parking attenant à la plage avec un village de 3000 m² consacré au sport de glisse, des exposants et de nombreuses animations.
La compétition prendra ses quartiers sur les 8 km de plage du spot de Villeneuve-les-Maguelones. En été, une zone de plage de 300 mètres mise à disposition par la municipalité est dédiée uniquement au kitesurf. Sur place, les membres de l'association Kitesurf and Windsurf Maguelone, KWM, organisateur du FestiKite, accueille et encadre les pratiquants toute l'année. Ce lieu proche de la cathédrale est très apprécié par les riders et même considéré comme l'un des meilleurs spots en Europe. Il présente une variété rare d'orientation de vent entre le Mistral, la Tramontane et du vent de sud-est. C'est un cocktail idéal, détaille Jean-Michel Mostacci, président de KWM. Sur place, l'association a prévu de lancer un club école en septembre prochain. Objectif, familiariser les enfants des écoles primaires, des lycéens et des personnes handicapés avec le kitesurf.
Même si ce sport n'a pas été inventé ici, c'est en Languedoc-Roussillon qu'il a été le plus médiatisé, notamment par deux Montpelliérains, Raphaël Salle et Laurent Ness. J'ai suivi de près le développement de cette nouvelle discipline à mon arrivée à Montpellier dans les années 90, commente Sébastien Ngara, kitesurfeur professionnel et entraîneur au MUC Kite à Montpellier. Il est devenu progressivement moins extrême et accessible à tous. Il véhicule en plus des valeurs comme le partage, la solidarité et le respect. À ce jour, on compte 12 800 licenciés dans l'Hexagone et le nombre de pratiquants ne cesse d'augmenter. Le Languedoc-Roussillon est le territoire où l'on pratique le plus en France. Rien d'étonnant, alors que le FestiKite prospère chaque année dans la métropole montpelliéraine.
Plus d'infos sur festikite.net et 4 jours de freestyle au programme. L'international FestiKite Freestyle Contest, organisé pendant toute la durée du FestiKite, mettra aux prises une dizaine de riders internationaux, dont deux locaux, Valentin Gara et Paul Serrin, au travers de plusieurs épreuves de freestyle. Le but du jeu est d'impressionner le jury avec des figures acrobatiques, frissons garantis dans cette compétition où le spectacle prime sur les résultats.
Des champions locaux. Qu'ils soient des riders aguerris ou de jeunes espoirs en devenir, de nombreux kitesurfeurs de talent sont basés et s'entraînent autour de Montpellier. Rencontre avec quelques-uns de ces champions. Pour Julien Kerner, 24 ans, c'est la recherche d'adrénaline.
Je suis arrivé à Pérol il y a 5 ans pour les spots locaux, les bonnes conditions climatiques et l'industrie du kitesurf qui se développe rapidement. Professionnel depuis 2010, j'ai remporté 3 titres mondiaux en 2010, 2011 et 2012. Je participe chaque saison à une quinzaine de compétitions à travers le monde et à une demi-douzaine en France. Le niveau est de plus en plus élevé. Il n'est pas rare d'avoir plus d'une dizaine de concurrents capables de l'emporter sur une même compétition. En parallèle, je teste également du matériel pour des grandes marques du coin.
Pour Anthony Picard, 16 ans, le but, faire un podium.
C'est une chance de pouvoir disputer le Festikite à domicile sur un spot que je connais très bien. J'espère faire un podium chez les jeunes et décrocher une bonne place en toute catégorie. Je pratique le kite depuis 7 ans à la KWM. J'ai fait mes débuts en compétition l'an dernier. Je suis membre de l'équipe de France. Je m'entraîne près de 10 heures chaque semaine. Cette saison, je vise un titre au championnat de France de speed crossing. J'aimerais participer aux Jeux Olympiques juniors en 2018 à condition que le kite soit reconnu comme discipline olympique.
Et enfin, témoignage de Sébastien Gara, 32 ans, coach et sportif de haut niveau.
Depuis 2 ans, j'ai ralenti le rythme des compétitions et j'officie en tant qu'entraîneur national de l'équipe de France et auprès d'athlètes du MUC Kite de Montpellier. 2 d'entre eux, Paul Serin et Valentin Gara, participeront au Festikite. Au sein du club, nous avons d'autres kitesurfeurs très prometteurs comme Nicolas Delmas et Lucas Vergès, aussi spécialistes de freestyle, et Charlotte Consorti, leader mondial en speed depuis des années. Cette double casquette, à la fois coach et sportif de haut niveau, me permet d'envisager progressivement ma reconversion.
Le saviez-vous ? 104,8 km/h, c'est le record mondial de vitesse sur 500 mètres détenu depuis 2013 par le kitesurfeur Alex Kézerg. La Montpelliéraine Charlotte Consorti est quant à elle la femme la plus rapide avec une performance de 93,4 km/h réalisée en 2010.
Le foil, c'est une planche différente de celle utilisée par les kitesurfeurs. Dotée d'un aileron impressionnant, elle permet aux riders de filer à 1 mètre au-dessus de la surface de l'eau. C'est une discipline réservée en général aux kitesurfeurs d'un bon niveau.
16 mètres, c'est la hauteur que peuvent atteindre les kitesurfeurs lors du Big Air. Une épreuve de freestyle où le but du jeu est de se servir des vagues comme tremplin pour effectuer ensuite une série de figures aériennes.
10 ans, c'est l'âge minimum recommandé pour pratiquer le kitesurf. Il est également nécessaire de peser au moins 40 kg afin d'évoluer dans des conditions de sécurité optimales.
Sur l'eau, sur terre et sur la neige, le kite peut se pratiquer sur différents terrains, mais toujours sur un engin tracté grâce à la force du vent. Le mountain board sur un skateboard, le buggy kite grâce à un petit véhicule à 3 roues, ou encore le snow kite en ski ou snowboard.
Le dossier.
Une économie en plein essor. Les sports de glisse ne se résument pas aux sensations fortes, ils sont aussi un business. Depuis une dizaine d'années, une véritable filière économique se structure dans la métropole et sa région. En parallèle, des associations animent le secteur et participent à la démocratisation de ces sports dits extrêmes découvertes.
De nombreuses entreprises locales sont à la pointe dans les sports de glisse. En 10 ans, près d'un millier d'emplois ont été créés par plus d'une centaine d'acteurs. Des magasins, des distributeurs, des réparateurs, des loueurs et surtout des fabricants de matériel. On compte des entreprises comme Kaku Shape et F1 à Pérol ou encore KM System à Pignan. Ces entreprises apportent un nouveau souffle à la fois sportif, économique et touristique au territoire. Le Languedoc-Roussillon a vu l'éclosion d'une flopée de champions internationaux. Nombre d'entre eux sont aujourd'hui à la tête de grandes marques de fabrication de matériel. L'entreprise Zikou, basée à Frontignan, est un bon exemple. Nicolas Caillou a fondé son entreprise de toutes pièces en 2008. Celle-ci exporte la majorité de sa production à l'étranger, en particulier vers les États-Unis. Grâce à notre nouvelle gamme de produits pour le foil, nous sommes en train de doubler notre chiffre d'affaires et devrions finir l'année parmi les principaux distributeurs mondiaux en la matière, souligne-t-il. Hurricane, l'entreprise dirigée par Hervé Androit Benoît, le créateur du FIS, est un poids lourd du secteur. Entre l'organisation des différentes étapes du FIS à travers le monde, la gestion d'une école de kitesurf et de wakeboard à la Grande Motte, l'édition de magazines sur les sports extrêmes et la fabrication de skatepark et de wakepark, la structure récemment installée à Bayargues et qui emploie 42 salariés, affiche une croissance moyenne de 15% par an.
Nos modules de skatepark sont fabriqués ici, dans nos locaux, et se vendent essentiellement en France. On en compte d'ailleurs une dizaine dans la métropole de Montpellier, détaille Éric-André Benoît, directeur d'Hurricane. Nous venons de signer 2 nouveaux contrats au Maroc, donnant un premier élan à notre stratégie d'export à l'international. À noter que l'entreprise fabrique également chaque année l'ensemble des modules utilisés par les riders sur le FIS World Montpellier et compte exporter son savoir-faire sur les nouvelles épreuves internationales inscrites au calendrier de l'événement, moins connu, mais tout
aussi actif dans la médiatisation des sports de glisse. Kite News est un magazine en ligne dont la société est basée à Castelnau-le-Lez. Le littoral languedocien présente des atouts naturels, 220 km de côte, 70 spots de kitesurf et une dizaine d'écoles entre le Gros du Roi et Sète. Grâce à la modernisation du matériel, ce sport est devenu accessible au plus grand nombre et des séjours sportifs se développent. En plus de la forte demande pendant l'été, il y a de plus en plus de pratiquants en automne et au printemps, complète Nicolas Caillou, dirigeant de l'entreprise Zico. C'est une opportunité pour le territoire de construire son identité autour du kitesurf, à l'image du Pays Basque avec le surf, complète Florian Massoni, président de l'association KLR, qui rassemble une grande partie des acteurs locaux du kitesurf. Nous travaillons avec les hébergeurs et les tours opérateurs pour développer des packages autour de ce sport, en y intégrant aussi d'autres forces de notre territoire, comme la viticulture ou son patrimoine naturel. Les hébergeurs y trouveront leur intérêt car ce type de tourisme peut se développer hors saison, une période où ils sont justement confrontés à une baisse des taux de remplissage. Le secteur de la glisse a de beaux jours devant lui.
20 millions d'euros, c'est le chiffre d'affaires global généré par la cinquantaine d'entreprises spécialisées dans le kitesurf et situées entre la baie d'Aigues-Mortes et Frontignan en passant par Villeneuve-les-Maguelones. Popular Skate Shop, spécialisé dans la vente et entretien de skateboards. Témoignage de Benjamin Januszkiewicz, gérant du magasin.
C'est en 2008 que Popular Skate Shop a ouvert ses portes à Montpellier. Nous sommes spécialisés à 100% dans le skate avec plus de 500 références disponibles. Je m'occupe également de l'entretien et du montage. L'âge de la clientèle aussi entre 15 et 30 ans et de grands événements locaux comme le FIS nous amène de nouveaux adeptes. Dans le skate, le matériel n'évolue pas énormément hormis la forme et la taille des planches en fonction de la mode. En ce moment, on revient à des boards assez larges dans le style old school. Il y a un renouveau de l'underground.
Le site internet popularskateshop.com. F1, concepteur et fabricant de kitesurf, témoignage de Raphaël Salle, fondateur de F1.
Après ma carrière professionnelle de véliplanchiste, j'ai décidé de créer mon entreprise dans les années 90. Au départ, nous étions spécialisés dans la conception de planches à voile, mais nous avons préféré nous réorienter sur un marché en plein décollage, le kitesurf. En 1997, F1 a été la première entreprise à en fabriquer dans le monde. Depuis nos débuts, nous sommes basés à Pérol, à quelques encablures de la mer, une localisation parfaite pour aller tester les prototypes que l'on conçoit. Fort de ses 20 salariés, F1 est aujourd'hui le troisième distributeur mondial de kitesurf.
À retrouver sur le site f-onekites.com. Les associations au cœur de l'apprentissage des sports de glisse. Bien dotée, la métropole peut se vanter d'accueillir des clubs de haut niveau dans le domaine. C'est le cas de Kitesurf and Windsurf Maguelone, à Villeneuve-les-Maguelones et du MUC Kite à Montpellier pour le kitesurf. À Clapiers, Basic BMX œuvre quant à lui en faveur du deux-roues, un sport complexe qui n'est pas à la portée de tous. De jeunes talents et des champions confirmés peuplent les rangs de ces clubs et brillent en compétition, parfois même sur la scène internationale. L'association Attitude utilise les skateparks de la Mausson et de Gramont pour former 130 enfants du territoire dans ces deux écoles, le Montpellier Skateboard et le Montpellier BMX. Elle anime également des stages d'initiation dans les maisons pour tous à Montpellier et divers établissements publics. En septembre, l'association organise le Video Street Challenge. Pendant une semaine, des skateurs professionnels auront pour mission de produire une vidéo de leurs exploits qui sera jugée ensuite par un jury. Les sports de glisse ne sont qu'une des multiples facettes des cultures urbaines. Celles-ci, comme le hip-hop ou le street art, sont en plein développement dans la métropole.
Vous pouvez retrouver la vidéo de présentation de FIS et du FestiKite sur montpellier3m.fr/FIS-FestiKite. Et puis plusieurs photos sur cette page, l'entreprise Hurricane qui réalise l'ensemble des modules présents chaque année sur le FIS. Popular Skate Shop, qui est un magasin situé dans la rue de l'Aiguillerie à Montpellier, qui vend du matériel de skate. Et puis le cliché de Raphaël Salle, dirigeant de F1 à Pérol, en compagnie du surfeur Rémi Quick, sponsorisé par la marque.
Rencontre. Nanda Gonzague, regard d'auteur. Publié dans Libération, le New York Times ou Paris Match, exposé en France et en Europe, Nanda Gonzague, 40 ans, est un des photographes montpelliérains les plus actifs de sa génération. Il raconte des sociétés arméniennes et éthiopiennes en plein bouleversements historiques et en France, des hommes et des territoires dévastés par l'amiante. Rencontre.
Nanda Gonzague nous a donné rendez-vous dans un bar d'hôtel chic et cosy, un décor qu'il a récemment repéré pour des portraits. Pierre Rabhi, Patrice Canaillet, les Gypsy King, Rodrigo Garcia, Philippe Sorel, nombreuses sont les personnalités à être passées sous son objectif. Contrairement à d'autres, je suis compatible avec le travail de commande qui me fait vivre à 80%. Et cela me permet aussi de mener un travail plus personnel. Fruit de ce travail, le livre de photographie « Ayastan, l'Arménie retrouvée » est sorti en octobre aux éditions Sun Sun, basé à Montpellier. Sur ce pays où il est allé à 4 reprises, Nanda est intarissable. Pas de lien familial, son prénom est indien, mais un intérêt pour les sociétés en reconstruction. Aujourd'hui, Nanda Gonzague s'intéresse à l'Éthiopie, un pays peu montré, marqué par des images de famine alors qu'il n'a plus faim, que le tourisme est en plein boom et qu'il a même pour projet de lancer des satellites. Groupe de rock, bourgeois et grands hôtels, grands chantiers, Nanda Gonzague montre Addis Abeba sous un angle inédit. Le photographe poursuit également un travail autour de l'amiante dans le cadre du projet La France vue d'ici, développé par Mediapart et le festival C'est toi, image singulière. Il y explore le désarroi des territoires marqués par l'amiante, une poussière impossible à photographier, une matière qui s'est immiscée dans la vie des gens. Publié par Paris Match en 2011, exposé à la galerie parisienne Faits et Causes pendant la COP21, ce travail fait écho à une série plus ancienne sur les risques industriels, Vivre en Sévésie. À chaque fois, il y passe plusieurs années, se documente beaucoup, travaille avec des sociologues et des experts.
Nanda Gonzague a fait ses classes pendant 3 ans chez RAFO, l'agence mythique des photographes humanistes. Robert Doisneau, Édouard Bouba, Sabine Weiss, les belles lettres de la photographie selon Nanda. Willy Ronis passait encore à l'agence, c'était très riche d'enseignements. À la fin des années 90, c'est déjà la fin de l'âge d'or de la photographie. Pour ma génération, la solution a été de créer des petites structures réactives et libres. À Montpellier, c'est le collectif Transit que Nanda Gonzague a fondé en 2001 et qu'il a quitté récemment. On avait 25 ans, pas de charge familiale, c'était quasiment une communauté. Aujourd'hui, j'ai 3 enfants, je n'ai plus autant de temps à investir. Idéalement placé entre les festivals d'Arles pour les rencontres photographiques et Perpignan, visa pour l'image, Nanda est heureux de constater que la photographie a sa place à Montpellier avec le pavillon populaire, les boutographies, qui proposent des artistes émergents de qualité, l'espace d'exposition au Transit et des galeries comme Annie Gabrielli. Face au phénomène Instagram où il a un compte, il n'est absolument pas inquiet et s'amuse plutôt de voir des grands-mères prendre en photo des manifs avec leur portable. Tout le monde est photographe, mais Nanda Gonzague est un peu plus que les autres.
Et le site de l'artiste nanda-gonzague.com. Planétarium Galilée partir avec Icare à la conquête du ciel. Fermé durant plus d'un mois pour travaux, l'équipement de loisirs à Odysseum présente un nouveau système de projection et une série de nouvelles animations.
Après un break pour mener à bien un chantier d'envergure, le Planétarium Galilée a rouvert ses portes au public le premier jour des vacances de Pâques. Dans l'intervalle, la salle de projection a fait peau neuve. Il faut dire que le dôme écran de 15 mètres de diamètre, installé depuis 2001, avait besoin d'un bon dépoussiérage sur ses faces intérieure et extérieure, ne serait-ce que pour ne pas altérer la qualité des nouveaux projecteurs laser. L'objectif principal des travaux était l'amélioration de la qualité de l'éclairage et le renouvellement complet du système de projection. Nous devrions avoir des images plus fines, plus colorées, plus belles, estime Xavier Girard, le directeur adjoint du Planétarium Galilée. Le public est le premier bénéficiaire de cette cure de jouvence avec un nouveau film, Dream to Fly, le rêve d'Icare. Voler, c'est l'aventure d'un rêve immense que l'humanité cherche à accomplir depuis très longtemps. Les spectateurs apprendront quelles ont été les grandes étapes de la conquête du ciel, des balbutiements de l'aviation jusqu'au lancement des satellites et des fusées dans l'espace. Et ils pourront se familiariser avec des noms célèbres comme Léonard de Vinci, les frères Montgolfier ou Wright. Depuis le mythe grec d'Icare, les essais ont souvent été infructueux avant que les hommes ne comprennent les grandes lois physiques de vol, telles que la force aérodynamique et surtout la pesanteur terrestre.
Le transit de Mercure, lundi 9 mai, intéressera aussi le public scolaire. Ce phénomène ne se produit que 13 fois par siècle. Les prochaines auront lieu en 2019 et 2032. C'est le passage de la planète Mercure devant le Soleil pendant plus de 7 heures, de 13h12 à 20h40. Comme Mercure est 155 fois plus petite, on verra une petite bille noire, commente Xavier Girard. Pour cela, une dizaine d'instruments d'observation seront positionnés pour les scolaires l'après-midi au Théâtre Hélios à Odysseum, puis pour le grand public ensuite. Sur cette page, une photo de l'affiche de Dream to Fly, le rêve d'Icare, le nouveau film grand public du planétarium. Et pour plus d'infos, www.planetarium-galilée.montpellier3m.fr/info-pratique.
Pour les pitchouns, des rendez-vous. Le premier, le mercredi 11 mai, dress code au frac. Le FRAC propose aux enfants de 5 à 12 ans d'appréhender la création actuelle de façon active et ludique. Guidés par des artistes, ils découvriront les œuvres au travers d'ateliers d'art plastique et d'une initiation à l'histoire de l'art pendant l'exposition. Dress code de Hamid Magraoui, il est proposé un atelier autour de la vidéo. Un numéro de téléphone pour les renseignements, 04 99 74 20 35 ou par mail contact@fraclr.org. Le tarif de l'atelier est de 10 euros.
Mercredi 18 mai, atelier Petit Écolo. Dans le cadre de la fête de la nature, cet atelier encadré par un animateur se tient aux Salines de Villeneuve-les-Maguelones. Partez le long du canal de la bouffe et ramassez les trésors laissés par l'étang. Ensuite, avec le produit de cette récolte, il s'agit de créer une œuvre artistique. C'est pour les 6 à 11 ans aux Salines de Villeneuve-les-Maguelones de 14h à 16h30. Plus de renseignements au 04 67 13 88 57.
Le mercredi 25 mai, un atelier tactile. Dans le cadre des préfaces de la comédie du livre, Toucher coller est une invitation à découvrir ou redécouvrir le sens du toucher et à laisser s'exprimer votre créativité par la réalisation de planches tactiles à la manière de Bruno Munuari. C'est de 14h30 à 16h à la médiathèque centrale Émile Zola. Renseignements à l'espace Homer au 04 99 06 27 32. L'entrée est libre.
En images, Pierre Alzingre, dirigeant de la société Visionary, accompagnateur de start-up. Il est né le 24 mars 1967 à Lyon. Pierre Alzingre, un coach dans la French Tech.
Il est un des piliers de la French Tech montpelliéraine et régionale. Bouillonnant et volubile, dès qu'on parle d'innovation, qu'il voit comme un outil de progrès social. Pierre Alzingre est de tous les événements qui buzzent, Startup Comédie en 2014, Open Cité en 2015 et aujourd'hui Startup Lycée. Ces rencontres qui mettent en relation étudiants, entrepreneurs, coachs, grands groupes, start-up ont un même objectif, accélérer les projets de création d'entreprises innovantes. Sans trop se soucier de passer pour un bisounours, il s'attache à être bienveillant et exigeant et à ne pas promettre la lune aux créateurs de start-up qui l'accompagnent depuis 10 ans. Sa plus belle fierté, 1001 Pharmacie, une start-up créée par un étudiant qu'il a rencontré à Subdeco où il s'est formé à l'âge de 40 ans après avoir quitté un emploi confortable de directeur marketing et avant d'y enseigner. Au sein de la French Tech, il aime ce nouvel esprit de coopétition, mélange de compétition et de coopération et, en toute chose, prône l'engagement, une valeur transmise par son père militaire avec qui il est arrivé à Montpellier à l'âge de 14 ans pour ne plus jamais en repartir. On le voit sur ses pages, sur scène et en réunion de travail.
Le programme Startup Lycée a déjà touché 2500 jeunes en région et à San Francisco. Nous leur exposons comme ici les 17 objectifs de l'ONU en matière de développement avant de leur demander d'imaginer des solutions. C'est un révélateur de talent. Nous serons au lycée Jean Monnet de Montpellier en octobre prochain. Mes collaborateurs et associés chez Visionary sont engagés et créatifs. Mathieu Gabaudan et Sofiane Betayeb sont deux anciens sportifs de haut niveau. Sofiane a déjà créé une start-up qu'il est en train de revendre. Lindsay George est le département recherche et développement et Élise Leroy, notre directrice générale. On se réunit parfois, comme ici, dans l'espace de coworking Cosmos, hôtel particulier au cœur de l'Écusson.
Il nous emmène dans un lieu qui lui est cher.
J'ai passé beaucoup de temps à la bibliothèque universitaire de Richter en 2007-2008 quand j'ai décidé de reprendre mes études à l'âge de 40 ans. Ce Master 2 en marketing m'a beaucoup apporté. On devrait tous continuer à se former. Nous sommes ici en octobre dernier également lors de la finale d'Open Cité, un concours de start-upers issus des quartiers avec Chantal Marion et Max Levita pour la métropole et Axel Lemaire pour le gouvernement. C'est une belle opération. Et puis Montpellier, pour moi, a toujours été un berceau d'innovation grâce à son incubateur et la présence de très nombreux étudiants.
C'est un sportif et fondu de sport que l'on découvre également.
Oui, j'aime aller au stade de rugby. J'y vais 5 à 6 fois par an pour soutenir le Montpellier Héros Rugby. Et puis j'ai grandi en Savoie jusqu'à mes 14 ans. J'aime beaucoup la course en montagne. Je suis assez fier d'avoir bouclé le Grand Raid de la Réunion en 2007 et l'Ultra Trail du Mont Blanc en 2008. Aujourd'hui, je fais des plus petites courses et je m'entraîne sur le parcours des 4000 marches au Mont-Aigoual.
Pierre Alzingre qui conclut ses pages en déclarant
« Si vous faites du nougat, vous allez à Montélimar. Si vous faites de l'innovation, vous allez à Montpellier. C'est une ville d'opportunités. » Languedoc, la page en langue occitane de votre magazine.
Masrouquet et le rebiscol d'au tambournet. La saison sportive commence. Estens de Rementa en camp de biais l'escribeire ou bret per rebiuda que l'esport traditionnel de la terre d'or. Masrouquet est passion comme une des escribeires images de la langue occitane. Poète et homme de théâtre, est abestat medio de campagne à Agnan, puis un medio conseiller de la sécurité sociale de Montpellier. Son nom, demorestacata au joc de paume au tambournet. C'est l'aéral des jocs de Cornon Terral, un tecadan se débat dans le Masters de Montpellier-Mietsterran-Métro.